Le journal était présenté par Mathieu Laurent, que l'on retrouve à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. Beaucoup de questions, beaucoup de critiques sur la façon dont les télévisions, mais aussi les radios, ont couvert l'attentat contre Charlie Hebdo, la traque des tueurs, jusqu'aux événements de Dammartin-Angouël et la prise d'otages sanglante dans l'épicerie Kacher de la Porte de Vincennes à Paris. Avons-nous, nous, journalistes, été assez prudents, assez responsables? Avons-nous fait preuve de discernement selon le mot employé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA? Plus de 70 heures de direct, d'émissions spéciales pour rendre compte d'événements hors normes, du jamais vu jusqu'ici en France. L'AFP, l'agence France Presse, a proposé un flux d'images en direct à ses clients. L'information livrée en temps réel par les médias français pendant 3 jours. Le CSA a réuni hier les patrons des radios et des télévisions pour une réflexion commune et pour examiner d'éventuels manquements qu'auraient pu commettre des médias audiovisuels. Charlie Hebdo, Dammartin-Angouël, Porte de Vincennes, les médias ont-ils manqué de discernement? On en parle ce matin dans Le Secret des Sources sur France Culture avec nos invités. En studio, Emmanuel Anison, journaliste média à Télérama. Bonjour.
Bonjour.
Lucas Manger, rédacteur en chef, et vous dirigez, Lucas, le service reportage d'iTélé. Bonjour.
Bonjour.
Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. Bonjour.
Bonjour.
Et nous rejoindrons en cours d'émission Nathalie Versieux du bureau de Radio France à Berlin. Nos deux regards extérieurs de l'émission, Mariette Darigrand, sémiologue, et Thibaut Henton qui nous parlera des images et du multimédia. Beaucoup d'images retenues lors de cette séquence. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Dans les coulisses de l'émission, Vincent Abouchard, Mathias Mégy avec cette semaine aux manettes en régie, Clément Daté. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Bonjour à tous, édition spéciale.
Nouvelle édition spéciale de la rédaction puisque les choses s'accélèrent.
Mesdames et messieurs, bonjour, édition spéciale exceptionnelle.
Le preneur d'otages ouvre le feu. Les forces de l'ordre ripostent abondamment.
Fuite priorité au direct, François Hollande s'exprime aux Invalides.
Alors qu'à 50 km de là, les frères Kouachi sont retranchés dans une imprimerie, devant le siège de Libération, la tension est palpable.
Cette journée du 11 janvier 2015 qui restera dans l'histoire comme celle de l'impressionnante mobilisation.
C'est un coup de fil que nous avons passé à Chérif Kouachi.
Ces types-là, ils ont tué 17 personnes. Mmh. Est-ce qu'on doit leur donner la parole comme ça?
Je le demande bien sûr aux organes de presse d'être particulièrement prudents sur le type d'informations et de messages qui... aujourd'hui, ils sont diffusés sur vos ondes parce que toute information peut aussi mettre en cause le travail d'enquête. L'information est totalement libre, les questions sont légitimes, mais j'en appelle là aussi vraiment à la responsabilité de chacun.
Voilà, la responsabilité de chacun, on vient d'entendre le Premier ministre Manuel Valls. C'était le 8 janvier dernier, en pleine chasse à l'homme, au lendemain de l'attaque contre Charlie Hebdo et à la veille du dénouement sanglant à Dammartin-Angouël et Porte de Vincennes. Dans le même temps, le CSA appelle les médias à faire preuve de discernement et convoque une réunion avec les patrons de chaînes qui s'est tenue jeudi dernier.
Toutes les radios et télévisions avaient répondu à l'invitation de leur autorité de régulation. Le CSA qui a, je cite, « vivement apprécié le caractère concret et confiant de ce large échange d'analyses et d'informations ». Un début de réflexion également bien vécu par les participants comme Alain Veil, le grand patron de BFM.
On s'est plutôt félicité du fait que les médias, comme les chaînes de télévision ou les radios, qui ont travaillé non-stop pendant 70 heures, ont plutôt servi de rempart. C'est Catherine Nel de TF1 qui a utilisé l'expression, par rapport aux réseaux sociaux où on pouvait lire tout et n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de filtrage. Là, il y a des rédactions de qualité, je crois, dans les médias audiovisuels en France. Et je pense que ça s'est vu pendant ces 70 heures.
Satisfait, d'autant plus aisé que ce rendez-vous n'était qu'un tour de table et que le CSA n'a jusqu'ici pointé aucun manquement. Il se prononcera le mois prochain. Le temps pour certains d'analyser ce qui s'est passé, explique Rémi Flimelin, le PDG de France Télévisions.
Ah ben nous, aujourd'hui, à France Télévisions, d'abord, on va, dans les prochains jours, ce qu'on appelle débriefer. Après, il faut que... Effectivement, on en tire les leçons, qu'on voit comment les choses ont fonctionné, comment les choses ont pu se coordonner. Mais ça se fait de façon quotidienne. Et puis après, on le fera de façon un peu plus posée dans les prochaines semaines.
Extrait du reportage d'Éric Chavroux, chef du service multimédia à la rédaction de France Culture et diffusé dans nos journaux hier matin. Emmanuel Hennison, le CSA qui convoque les patrons de chaîne pour une réflexion, c'est du jamais vu.
Effectivement, on s'attendait surtout à ce qu'il les convoque pour, éventuellement pour leur donner un petit coup de bâton, le CSA gendarme. Et puis,
peut-être le mois prochain.
Peut-être le mois prochain. En attendant, il les a convoqués comme une maison des médias pour réfléchir à ce qui s'était passé. Il semblerait qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'échanges parce qu'ils étaient très nombreux, une quarantaine, que finalement chacun a un peu exposé sa bonne façon de faire, mais sans qu'il y ait... réellement d'échanges et avec les conseillers du CSA. Après, il y a eu quand même entre les professionnels quelques remarques, et notamment sur la façon dont BFM TV avait interviewé les preneurs d'otages.
Alors on va y revenir, mais c'est quand même plutôt sain d'engager une réflexion après une séquence pareille qui est incroyable.
Bah, c'est sain si ça ne se limite pas simplement à un échange très voilà, civil. Quand on entend dire « nous les médias, on est responsables et les réseaux sociaux simplement seuls ont déconné », je pense que c'est un petit peu rapide.
Oui, c'est ça, Lucas Manger, on a entendu. Les télés ont fonctionné comme un rempart, comme on vient de l'entendre, face au flot ouvert d'Internet. On est un rempart à iTélé ?
Oui, on est aussi un rempart, mais c'est pas la seule explication qu'il y avait à donner au CSA. De toute façon, ce genre de débat et de questionnement sont extrêmement sains, que ce soit le CSA ou entre nous que ça s'organise, c'est extrêmement sain de pouvoir parler de la manière dont on a traité cette affaire, qui n'est d'ailleurs pas totalement terminée, même pas du tout terminée, qu'on va continuer à traiter dans les semaines qui viennent. Donc c'est pas mal de s'arrêter un peu et de réfléchir. Oui, on est un rempart aux réseaux sociaux. Le nombre d'informations fausses ou données trop tôt par les réseaux sociaux, parce qu'il y a un certain nombre de... Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que des choses fausses. Le problème, il est là. C'est qu'il y a un certain nombre de journalistes très bien informés, notamment les journalistes qui travaillent avec la police depuis longtemps, qui vont donner des informations parce qu'ils sont dans une espèce de chasse au scoop et à l'existence sur Twitter, qui, évidemment... pourraient être prises par des chaînes d'infos, mais par d'autres chaînes aussi. Et quand on parle des chaînes d'infos, il y a aussi des radios d'infos. Et dans cette maison, il y en a une très importante, France Info, qui était un de nos concurrents aussi. Quand on est à l'inveil, dit qu'on est un rempart, je ne sais pas si le terme est exact, ce n'est pas une histoire de rempart militaire. C'est juste qu'on trie, on valide. Et que dans le cas qui a été évoqué beaucoup sur Twitter, c'est la diffusion ou non des noms des trois suspects dès le mercredi soir qui circulent à partir de 18-19 heures sur les réseaux sociaux et que nous, à iTélé, nous n'avons jamais donné avant l'avis de recherche de la police qui est intervenu, dans mes souvenirs, vers 2h30 du matin.
Alors, pas de manquement selon le CSA, ce qui se laisse même un peu de temps de réflexion. Pas de manquement, mais des polémiques. On en parlait, Emmanuel Hennison mettait le doigt dessus lors de la prise d'otage de l'épicerie Cachère de la Porte de Vincennes. On a beaucoup parlé, effectivement, de BFM TV à cette occasion. Je vous propose d'écouter trois extraits sonores.
Vous avez failli faire une grosse, grosse, grosse erreur, BFM, parce que vous étiez en direct avec les gens qui étaient dans la chambre froide. Ils vous ont dit qu'ils étaient 6 en bas avec un bébé. Et 2 minutes après, c'est passé sur BFM. Et le terroriste a regardé BFM. Heureusement qu'il n'a pas vu la bande qui passait en bas. Sinon, mon mari et les 5 autres étaient morts. Parce qu'ils descendaient, ils les mitraillaient tous. Parce qu'il était persuadé qu'il n'y avait plus personne en bas. Trop d'informations tuent l'information.
Il y a une personne, une femme, qui se serait cachée dès le début... dès l'arrivée de cet homme donc à l'intérieur du supermarché, qui s'est caché dans une chambre froide et qui s'est réfugié dans la chambre froide et qui y serait encore.
La seule chose
dont on a trouvé trace sur l'antenne. C'est à une reprise juste avant 15h le vendredi. L'un de nos spécialistes police qui a évoqué en plateau à une reprise le fait qu'une femme se serait cachée dans une chambre froide. On peut estimer que cet instant dramatique et face à l'émotion en cours, c'est préférable de ne pas la donner en effet.
Voilà, c'était donc vendredi dernier, le jour de la prise d'otage de la porte de Vincennes. On a entendu l'épouse d'un des otages de l'épicerie Cachère, puis Dominique Rizet, spécialiste police de BFM à l'antenne vers 15h ce jour-là, vendredi dernier. Et enfin la réponse d'Hervé Bérou, directeur de la rédaction de BFM TV. Lucas Mange, une réaction, vous aussi, vous étiez en direct à cette heure-là avec des spécialistes également. Est-ce que vous aviez cette information concernant des otages cachés dans la chambre froide de l'épicerie Cachère ?
Oui, on a eu cette information, effectivement. Je ne vais pas commenter ce qui a été dit sur notre chaîne concurrente, BFM TV, mais évidemment, dans une rédaction comme celle d'ITélé, on passe énormément de temps. Il faut bien voir ce que c'est, parce qu'on est beaucoup critiqué par des, et à juste titre, toutes les critiques sont bonnes à prendre, par des médias, mais le breaking news, l'info en continu, il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir des erreurs dramatiques, il peut y avoir des erreurs beaucoup moins graves, des erreurs dans les bandeaux, des erreurs dans ce qu'on dit. On essaye tous de faire extraordinairement attention à ce qu'on dit, parce qu'on sait bien qu'il y a des enjeux de direct et que les preneurs d'otages peuvent regarder ce genre de chaîne. Ça vaut pour ce qui s'est passé à Vincennes, mais ça vaut à Dammartin. On est quand même tous conscients qu'il y a des vies en jeu, que chaque élément qui peut être donné peut soit gêner le travail de la police, soit faciliter, pire encore, j'allais dire, celui des preneurs d'otages. Donc le risque de dérapage, il est évidemment très grand quand on fait des antennes, quand on fait 24 heures de direct non-stop avec des envoyés spéciaux partout, des gens en plateau qui sont eux-mêmes fatigués.
C'est un exercice où on est en équilibre pendant 70 heures.
C'est un exercice d'équilibre, exactement, et puis d'expérience aussi, de gens qui, en plateau, vont avoir énormément d'informations qui leur arrivent, que ce soit par des notes qu'on leur passe, que ce soit par leur propre, par des SMS, par Twitter, par ce genre de choses. Donc c'est aussi d'avoir des gens d'expérience qui savent faire le tri en permanence de ces informations.
Emmanuel Anison, quel regard vous portez-vous sur ce manquement ou cette faute, on l'appelle comme on veut? Vous êtes sévère à Télérama sur ce genre de dérapage?
Je ne sais pas si on peut être sévère, parce que c'est effectivement, j'imagine, un exercice d'équilibriste. Et on parle des radios, on parle des télés, mais c'est un exercice qui aujourd'hui est vrai pour tous les journalistes, parce que la presse a des sites web, relaie aussi en live, et ils sont très très lus, voilà, ces événements en direct. Libé a failli aussi à un moment annoncer une arrestation qui n'avait pas lieu. Il y avait un conditionnel, on l'a retiré. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, cet exercice, il touche absolument tous les médias.
Oui, tout le monde est très réactif. Tous les médias
tout
sont
très réactifs.
Réactif,
ouais. Que par ailleurs, quand on dit médias, quand quelqu'un poste une info sur Facebook ou sur Twitter, est-ce que c'est un média et qui est responsable et jusqu'où, quand elle est relayée, elle n'est déjà pas publique. Enfin, c'est une interrogation extrêmement compliquée. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a un apprentissage à chaque fois sur tous ces événements. Je pense que les chaînes d'infos continues ne font quand même moins d'erreurs aujourd'hui qu'elles en ont fait un moment, et qu'on est tous dans un apprentissage mais absolument général, quoi, sur ces questions. Et ça va de la chaîne d'infos continue, mais je vous dis, à la presse écrite, en passant par le citoyen, celui qui met sur Facebook la photo, enfin la vidéo du policier qui est assassiné en direct et qui au bout de 15 minutes la retire parce qu'il se rend compte que voilà, mais c'est trop tard parce que cette vidéo, ça y est, tourne. Je pense que c'est aussi de l'ordre de l'apprentissage vraiment collectif, quoi.
Christophe Deloire, alors l'avis de Reporters sans frontières, ou en tout cas de son secrétaire général, sur cette information qui a donné lieu, qui a débouché sur la réunion au CSA jeudi dernier.
Moi, je suis à la tête d'une organisation qui a pour mandat de défendre la liberté et l'indépendance de l'information. Donc, je ne suis pas là pour donner des leçons. Ce qui a changé, au-delà de l'accélération du direct permanent sur certaines antennes, c'est aussi l'accès, et que chacun, avec son smartphone, peut avoir accès à une télévision, et que ça n'existait pas autrefois, et que donc, aujourd'hui, les journalistes, lorsqu'ils s'adressent à leur public, à leurs spectateurs, s'adressent aussi aux acteurs de l'actualité, et que ceux-ci ont accès, ou qu'ils se trouvent, et même s'ils ont une Kalachnikov dans l'autre main, ont accès à l'information, et que donc il y a un risque que le journaliste dont l'objet est de rapporter l'information au grand public finisse par, par transmettre des informations qui sont utiles, opératoires pour ceux qui, j'allais dire, font l'actualité et dans un sens parfois extrêmement tragique. Et que là, naturellement, dans les rédactions, il faut une réflexion pour éviter que l'information ne soit détournée de son sens. Alors, réunion au CSA. Moi, je trouve un peu problématique que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de plus en plus, et c'est une tendance qu'on observe depuis longtemps, tende à se comporter en... alors, c'est un organe de régulation, donc il a pour vocation de faire respecter les cahiers des charges des différents médias. Il s'adresse aux patrons de ces médias, puisque c'est eux qui sont responsables devant le CSA, mais... L'idée, au fond, c'est d'avoir quand même une forme d'influence et de regard sur les contenus et sur le traitement éditorial. Et ça, c'est une pente qui peut être dangereuse. Qui l'a été récemment, où il y a eu des velléités de la part d'un certain nombre de conseillers du CSA. Alors, le président du CSA, Olivier Schramek, qui avait mis fin, mais sur la question du traitement des images de guerre, de mettre en place des observations dans lesquelles il y avait des termes aberrants. Et finalement, après moult réunions, le CSA donc, est revenu en arrière. Mais ça, c'était sur les questions de guerre. Et où il y avait une forme d'orientation. Enfin, l'objet de certains conseillers, c'était d'orienter quand même d'une certaine manière les images. Et puis, le CSA n'est pas une instance de déontologie. Et que faire des réunions a priori, donc c'est-à-dire avant, pour mettre en garde, pour essayer d'orienter. Moi, ça me semble pas tout à fait normal dans une démocratie où la liberté d'expression, elle a ses limites, comme toute liberté. Ce n'est pas une liberté absolue. Il y a des exceptions parfaitement légitimes à la liberté d'expression. En tout cas, cette idée qu'on réunit les patrons de médias avant le traitement des événements, moi, ça me semble gênant. Ça n'est pas l'objet du CSA que d'orienter. Il y a le CSA qui doit vérifier, qui est un organe de régulation, qui doit vérifier le respect. Et puis il y a les magistrats qui, a posteriori, c'est un des grands principes démocratiques, sanctionnent lorsqu'il y a abus au regard des lois. Et il y a des lois dans ce pays.
Lucas Mangé, dit Télévision.
Oui, d'autant qu'on a été en lien, forcément, comme toutes les rédactions, avec les pouvoirs publics, avec la police, avec la direction de la police judiciaire, avec le ministère de l'Intérieur. D'abord, on a des services police-justice, comme on dit, qui sont en contact permanent. Et on a été en contact, comme toutes les rédactions, avec la direction de la police, qui nous indiquait... Ils savaient bien qu'on avait un certain nombre d'informations et ils n'ont pas hésité à appeler à juste titre en disant « Faites attention, il y a tel type d'informations qu'il ne faut surtout pas donner parce que ça nous gêne. »
Et ça, c'est des contacts assez réguliers dans l'après-midi du vendredi ?
C'est des contacts qui commencent quelques heures après l'attentat à Charlie Hebdo et qui se poursuivent jusqu'à la fin des opérations forces spéciales, mais qui peuvent encore se poursuivre là, dans ces jours-ci. Enfin, je veux dire qu'ils sont poursuivis jeudi soir avec la Belgique, vendredi avec éventuellement une alerte à Colombes sur laquelle les journalistes sont partis. Enfin, ce contact, il existe comme dans tous les domaines journalistiques, j'allais dire. Enfin, je veux dire, quand on travaille sur la culture, on est en contact avec des gens du ministère de la Culture aussi. Donc, il n'y a pas de... Moi, j'ai aucune gêne à savoir que Quand le chef du service police-justice vient me voir en me disant « Écoute, je viens d'avoir quelqu'un d'important au ministère de l'Intérieur qui nous dit de faire très attention à telle information », je la bloque, évidemment. Parce que dans le doute, je préfère bloquer une information qui pourrait mettre qui que ce soit en danger que de faire, j'allais dire, le fanfaron pour dire « Oui, bah, on s'assoit sur les ordres du ministère ».
Alors, Lucas Mangé, est-ce que, par exemple, vendredi dernier, vers 17h-17h30, lorsque l'assaut est donné sur l'épicerie cachère, est-ce que là, les policiers vous dites « Arrêtez de retransmettre en direct, on approche ». On attaque.
Ils le disent évidemment par plusieurs canaux. Ils le disent d'abord à nos équipes sur place, puisqu'il y a un certain nombre de caméras dit télé qui sont positionnées autour de l'hypercachère de la porte de Vincennes. Ils le disent aussi via la rédaction en chef ou via la direction de la rédaction. Ils nous informent qu'ils ne savent pas à quel moment ils donneront l'assaut. Et ils n'ont pas besoin de nous expliquer tellement plus. On se doute bien que, vu le cas de figure de deux prises d'otages faites par des terroristes qui se connaissent, il y a une forte probabilité de concomitance des assauts pour pas qu'il y ait de réplique. Et donc, on se doute bien qu'à un moment ou un autre, donc une chaîne décide de diffuser en direct, malgré ses mises en garde, l'assaut. Ça ne me regarde pas. Nous, effectivement, on n'a absolument pas diffusé l'assaut de la porte de Vincennes en direct. Tout simplement parce que, d'abord, il y avait des mises en garde, effectivement, des autorités. Et puis, vous avez quand même un risque de ce que vous allez montrer, hein, tout simplement. Quand il y a une prise d'otage qu'on voit sur nos images, c'est pas parce que nous, on voit en régie un certain nombre de choses qu'on va diffuser tout. Si ça se passait mal, Si des enfants sortaient, je prends un exemple terrible, mais les enfants sortaient de l'épicerie, du supermarché, pardon, et étaient abattus par le preneur d'otages. Enfin, on ne peut pas diffuser tout en direct. Donc, il y a un gros travail en régie de surveillance des images et de choix éditorial de se dire, là, on ne diffuse pas en direct.
Alors, il y a la responsabilité, bien sûr, du journaliste et aussi le lien journaliste-police. Je vous propose d'écouter Jean Guinel. Donc, il est spécialiste défense et renseignement au point. Il était l'invité de Marc Voinchet dans les matins de France Culture mardi dernier. Il revient sur cet épisode de BFM TV. On écoute Jean Guinel.
Le débat sur la manière dont les journalistes ont couvert les opérations est parfaitement légitime. Il faut en tenir un. Et je pense que pris dans l'excitation et dans la course à l'audience, notamment les chaînes d'information permanente ont fait des erreurs. Mais moi, j'ai entendu de mes oreilles, de mes propres oreilles, un député en direct, le député de la région de Roissy, expliquant en direct à l'antenne, alors que les terroristes, les deux frères Kouachi, étaient dans l'imprimerie, expliquant à l'antenne, oui, mais enfin bon, ça va, il y a un type qui est pris en otage, qui est à l'intérieur, qui est caché, mais ils ne l'ont pas vu, ils ne le savent pas. Le gars, il expliquait ça à l'antenne, en direct. Alors, les journalistes, bien sûr, il faut discuter, il faut que... On a une responsabilité là-dessus. Et puis moi, je ne jette pas la pierre à l'un ou à l'autre.
Est-ce qu'à ce moment-là, il y a un état de crise qui doit nous obliger, nous, journalistes, à s'arrêter, puis, entre guillemets, à retenir une information,
à ne pas se précipiter, à prendre le temps, à prendre le temps de réfléchir, à ne pas être à la fois informer les gens et puis de garder la tête froide. Ça, c'est quand même notre responsabilité. Mais je ne voudrais pas qu'on laisse dire que d'autres n'ont pas leur responsabilité. Il y a quand même des policiers, les journalistes qui ont diffusé les identités des terroristes avant qu'elles soient diffusées par la police, les ont pas volées. Il y a bien des policiers ou des politiques qui leur ont donné ça. Un député qui vient dire il y a des gens cachés, qui parle de manière totalement irresponsable, en direct à la télévision, en disant je vous livre un secret parce que moi je suis au courant et tout ça. Mais c'est naze pour parler, franchement. C'est complètement naze. Ouais.
Emmanuel Anison de Télérama, et oui, il y a des policiers qui donnent les informations. Les journalistes ne l'inventent pas.
Il y a des policiers qui donnent les informations et encore une fois, cette information sur les frères Kouachi, elle est venue des réseaux sociaux, là encore. Donc après, c'est effectivement aux chaînes de télévision et aux médias plus traditionnels, officiels, de savoir ce qu'ils font de ces informations. Mais ces informations, elles sont déjà, elles circulent déjà sur le web et elles circulent de manière fulgurante.
Mais d'ailleurs, nous, on a des questions sur le site Internet, par exemple. Et c'est là que c'est très intéressant, parce qu'on a, y a des gens qui nous envoient énormément de commentaires, de tweets, en disant « Mais pourquoi vous ne dites pas à l'antenne les noms des terroristes ?» Et donc, on leur répond « Mais parce que pour nous, ce n'est pas vérifié, tout simplement. » Mais d'où l'importance, effectivement, de bien faire la distinction. Et je pense que c'est un long travail qui commence, pour nous tous, journalistes, d'apprendre, dès le plus jeune âge, puisque les tweets, ça commence très tôt maintenant, mais qu'il y a une différence entre tweeter d'un compte personnel, quelqu'un qui donne une information depuis un compte personnel, et d'une rédaction. Une rédaction, ça a une responsabilité éditoriale, et pour employer des grands mots, parfois de la déontologie, parfois de l'éthique aussi, et ça diffuse pas n'importe quoi, n'importe comment. Maintenant, est-ce qu'on gagnera cette bataille contre Twitter? C'est pas sûr du tout.
Christophe Deloire.
Ces évolutions et le fait que, à mon des rédactions dans lesquelles, alors à des degrés divers, on réfléchit sur des principes d'éthique, un monde des réseaux sociaux sur lesquels tout le monde ne propage pas toutes les rumeurs ou toutes les informations vérifiées, mais en tout cas, il y a toujours beaucoup de gens et ça finit par en atteindre donc énormément. Ça permet je pense que ça amène à réfléchir sur ce qu'est l'essence du journalisme et finalement, ça fait resituer l'essence du journalisme qui est à la fois un exercice d'information qui doit être par nature libre et indépendant et qui est aussi lié à des choix et des choix éditoriaux, alors sous forme de responsabilité parfois, parce que évidemment les journalistes doivent prendre garde, les journalistes savent dans ce genre d'actualité aussi tragique que ces derniers jours, mais parfois ça peut être la veille d'une vague d'arrestation, des journalistes qui savent que demain seront arrêtés, des suspects, et que c'est important que les journalistes... Les journalistes ont un rôle à jouer dans, d'une certaine manière, le tri de l'information. Non pas à des fins de censure, il ne s'agit pas là de justifier certaines pratiques qui consisteraient à faire ce qu'on appelle du off à outrance et à garder les informations entre soi quand elles sont pertinentes et d'intérêt public. Mais là, en l'espèce... Alors, dans d'autres secteurs, ça me fait penser au rôle des journalistes qu'ont les journalistes vis-à-vis des whistleblowers, des lanceurs d'alerte, et qui parfois ont des masses d'informations... le rôle des journalistes, c'est de trier parmi tout ça ce qui peut ou doit demeurer secret au regard de l'intérêt public et l'information qui est d'intérêt public, qu'il faut donc à ce titre propager. Et ça vaut sur ce genre d'affaires là où l'actualité accélère. Alors il y a une concurrence, on peut dire, entre les journalistes et des gens qui simplement, des internautes qui propagent des informations sur les réseaux sociaux. Ça pose la question des réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est l'objet de ce débat d'en parler aujourd'hui.
Bientôt, avec Thibault.
Je crois que ça nous amène aujourd'hui vraiment à ce que le journalisme soit très, et c'est les discussions que nous avons là aujourd'hui, très centré sur ce qu'est aujourd'hui son essence, son rôle social.
On va en parler. Mariette Darigrand, sémiologue. Alors ce sujet vous intéresse beaucoup. Nous sommes dans une séquence incroyable, hein, la semaine dernière, du jamais vu en France. Et nous, journalistes, mettons en avant notre mission, notre devoir d'informer, parce que c'est l'actualité, chaude, brûlante, terrible. On est dans l'actualité ou pas seulement, Mariette Darigrand ?
Je crois qu'on est dans l'histoire, avec sa grande hache, comme disait Georges Perec, hein, il parlait du nazisme, l'histoire qui fait toujours irruption, qui est certes préparée, mais qui arrive toujours par surprise. Et on voit bien dans ce que vous dites, et je m'inclus dans votre innocence en quelque sorte, c'est générationnel, c'est le moment, c'est la première fois que l'histoire, en France en tout cas, arrive comme ça depuis... La Seconde Guerre mondiale, il y a eu le 11 septembre, c'était quand même un peu loin, mais c'est de cette nature. Alors, quand l'histoire fait irruption, le journaliste change de rôle. D'habitude, il fait quoi le journaliste ? Il est devant quoi ? Il est devant ce que vous appelez l'actu. J'ai beaucoup aimé vos formules, acteurs de l'actualité, ceux qui font l'actualité. Non, ils ne font pas l'actualité, les terroristes, à ce moment-là, quand vous les filmez. Ils font l'histoire. Et nous aussi, nous sommes co-acteurs. Donc le journaliste est intéressant. Tout à fait d'accord pour réfléchir au rôle du journaliste dans ce contexte. Il est multidimensionnel. Il sait faire quelque chose de très bien, le journaliste, c'est son métier. Il a des savoir-faire, il a des admirations, il a des techniques, il est de plus en plus technique. On lui demande de plus en plus d'être dans le métier, car il fait maintenant partie d'une industrie. Donc il fait son métier comme un industriel du jeu, un industriel de l'agroalimentaire ou des transports, ou du téléphone. Mais c'est le premier niveau. Et souvent, vous vous défendez, les journalistes, ou quand on vous met en cause, vous dites « oui, mais moi, je fais mon métier, voilà, point ». Et dans cette émission, depuis plusieurs saisons maintenant, nous sommes amenés à vous dire « mais il n'y a pas que le métier, il y a un deuxième niveau qui est la mission, hein, camusienne, et où est-ce que vous êtes, quels grands éditorialistes, et comment est-ce qu'on dit « je » dans les écoles de journalisme aujourd'hui en France ? On apprend, première chose, à ne pas dire « je », première année, enfin, c'est incroyable. Mais bon, on comprend l'idée, mais quand même. Mais là, ce que nous apprennent les événements, on ne dit plus les faits, on n'est pas devant des faits, on est devant des événements. Eh bien, ces événements historiques, ils nous apprennent qu'il y a un troisième niveau, qui est l'action. Le journaliste, mais le citoyen aussi, mais là, on parle du journaliste. Le journaliste est co-acteur. Donc, quand il est co-acteur, son problème, ça n'est pas de savoir s'il a le droit ou pas de passer une info, de trier comme vous le faites d'habitude, de vérifier. Ça, c'est le métier. Ok, vous le faites. Mais il y a une dimension supplémentaire qui est celle de l'effet produit par une information. C'est-à-dire qu'elle va participer à l'événement historique en train de se faire. C'est avec ce paradigme-là qu'il faut réfléchir à ce que l'on fait dans le métier. C'est l'action au sens très historique, très épique du terme, qui doit rétroagir sur le métier.
Alors, Mariette Darigrand, on parle bien sûr de la liberté d'expression, mais il faut savoir ce qu'on en fait aussi, la liberté d'expression.
Ben, si on est dans ce paradigme de l'action collective, hein, donc il y a la liberté d'expression du journaliste, mais on a bien vu que chaque individu est concerné par cette question-là. Je crois que collectivement, si on est dans l'histoire, il est peut-être intéressant de réviser le concept de liberté d'expression, de lui ajouter quelque chose dans la société d'hyper-individus dans laquelle nous sommes. Il me semble que la liberté d'expression ne doit pas être simplement une émanation du moi et du droit personnel à jouir de quelque chose, mais aussi, non pas un devoir, mais un acte qui va avoir des effets sur l'autre, sur le contexte, et surtout qui doit avoir une finalité. Donc, personnellement, et là, je parle en mon nom propre, mais bien sûr défendre la liberté d'expression, mais je réfléchis à quelle finalité. Les professeurs doivent réfléchir à quelle finalité, les éducateurs, les journalistes, les politiques qui sont là en première ligne.
Marie-Hédère Igrand, Charlie Hebdo, Damartin Angouël, Porte de Vincennes, les médias ont-ils manqué de discernement avec nos invités Emmanuel Anison, Lucas Manger, Christophe Deloire. Alors, la chanteuse anglaise Holly Cook et sa chanson Tiger Balm, extrait de son dernier album Twice. Vous êtes bien sur France Culture, Thibaut Henton. Beaucoup d'images fortes durant la semaine écoulée, Thibaut.
Oui, beaucoup d'images de foules rassemblées pour des motifs tout à fait variés. Une pancarte m'a particulièrement marqué qui disait « Je marche, mais je suis conscient de la confusion et de l'hypocrisie de la situation ». Beaucoup d'images, donc, et notamment des photos de la place de la République, sa statue et sa flamme, reproduites en une du Monde ou de Libé, notamment. Image d'un pompiérisme exalté, écrit André Gunther sur son blog L'Image Sociale. La communauté se berce de symboles, poursuit-il. Ironique quand on sait combien Charlie Hebdo tenait les symboles en horreur pour faire mine de retrouver une histoire à laquelle elle a cessé depuis longtemps de croire. On a beaucoup moqué aussi cette semaine et détourné Nicolas Sarkozy, jouant des coudes pour s'afficher en tête de l'autre cortège, celui des puissants. On a d'autant plus glosé sur le sujet que Paris Match, qui avait mis en ligne dans un premier temps un article intitulé « Comment Sarkozy s'est invité sur la photo », a modifié et le titre, devenu « Les coulisses d'une photo historique » et le contenu de l'article, Sarkozy ne s'invitant plus de lui-même mais étant propulsé malgré lui au premier rang. Si on écoute l'intéressé, c'est le président Hollande qui lui aurait demandé de le rejoindre. Bon, entre ça et la fiente de pigeon tombant sur l'épaule du président au moment où il embrassait les survivants de Charlie Hebdo, provoquant leur rire, il y a de quoi se réjouir. Ils n'ont pas fini d'être bêtes, sinon en contact avec les bêtes, ni nous d'être méchants.
Et puis il y a cette image que l'on a vue aussi, hein, Angela Merkel, la chancelière allemande, avec la tête pratiquement posée sur l'épaule de François Hollande. Et dans ce contexte, il est intéressant d'aller voir chez nos voisins européens, et notamment en Allemagne, avec Nathalie Versieux, journaliste au bureau de Radio France à Berlin. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Alors l'Allemagne est confrontée à des manifestations islamophobes de la part du mouvement anti-immigration Pegida, un mouvement dont les manifestations rassemblent chaque lundi à Dresde de plus en plus de monde. Et ce mouvement cherche, Nathalie, à récupérer l'attentat contre Charlie Hebdo.
Oui, en fait, Pegida a dès les attentats inscrit « Vive la France » sur sa page Facebook, le seul moyen de communication officiel du groupe Pegida. Les attentats de Paris ont aussitôt été récupérés sur le mode de « on l'avait bien dit, il faut faire quelque chose contre l'islamisation de l'Occident ». Avec un certain succès, il faut dire, lors de la dernière manifestation, Pegida a mobilisé 25 000 personnes à Dresde, donc la plus forte mobilisation jusqu'à présent depuis le début du mouvement en mi-octobre. Et puis Pegida commence à essayer, à essaimer à l'étranger, en France, mais aussi en Grande-Bretagne, en Suisse ou bien aux Pays-Bas et en Espagne. Par contre, en Allemagne même, le mouvement n'arrive pas à dépasser les frontières de Dresde et même pas à s'étendre au reste de l'ex-RDA.
Nathalie Versieux, quel discours du gouvernement allemand et d'Angela Merkel face à ce genre de manifestation ?
Angela Merkel a mis très longtemps à réagir, d'abord par surprise, parce que ce mouvement est parti de rien mi-octobre et il échappe à tout contrôle des partis politiques. Ensuite, par tactique, parce qu'elle a espéré qu'en ignorant Pegida, le mouvement se noierait tout seul. Il n'en a rien été. Donc, elle a finalement choisi de réagir. Dans son allocution de fin d'année, elle a condamné fermement l'intolérance. Puis, elle a décrété au début de la semaine que l'islam fait partie de l'Allemagne. Du point de vue de Pegida, c'est évidemment une déclaration en forme de provocation.
Nathalie Versieux, quelle image les Allemands ont-ils de l'islam et notamment peut-être à travers les médias ?
Mais en fait, ils en ont une image assez fausse et on s'est aperçu que les Allemands connaissent plutôt mal l'islam. Il y a une étude qui vient d'être publiée, qui a été commandée par la fondation Bertelsmann. Elle a été réalisée en novembre, donc avant les attentats. Elle montre un anti-islamisme latent. 61% des Allemands sont d'avis que l'islam n'est pas compatible avec le monde occidental. 40% se sentent étrangers dans leur propre pays à cause du nombre élevé d'étrangers, notamment musulmans. Et 24% sont d'avis qu'il faudrait interdire purement et simplement l'immigration en provenance des pays musulmans. Mais il faut bien voir qu'il y a quand même près d'un Allemand sur deux qui est d'avis que les musulmans représentent près de 20% de la population allemande, alors qu'ils ne sont moins de 5% du total. Donc on le voit, une très grande méconnaissance de tout ce qui concerne le monde musulman en Allemagne.
Merci Nathalie Versieux, en direct de Berlin.
Alors toute l'équipe de Charlie, comme vous n'étiez pas au rassemblement, les gars, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas où vous êtes maintenant, d'après les derniers renseignements, vous seriez au paradis. Il paraît que vous avez déjà dessiné des bites partout. Non, les gars, ça va encore les énerver. Il y en a beaucoup qui n'en ont jamais vu. Tiens, ça me rappelle cette phrase de Charb qui avait dit « C'est pas des églises et des mosquées qu'il faut construire, mais des hôpitaux psychiatriques. » Le visionnaire. Et comme disait Aragon, certains jours, j'ai rêvé d'une gomme à effacer l'immondice humaine. Eh bien, continuons de rêver. Nous chanterons encore que les barbares auront disparu. D'ailleurs, chantons très fort. Una mattina mi son svegliato.
L'humoriste Christophe Alévèque, c'était dimanche soir à l'Auditorium de Radio France, une soirée coproduite par France Culture, France Inter et France 2. Vous y étiez, Christophe Deloire, et lors de cette soirée, eh bien, vous nous avez annoncé que Reporters sans frontières allait engager une démarche pour la liberté d'expression auprès des autorités religieuses, de toutes les autorités religieuses en France. Où en êtes-vous ?
On y a travaillé toute la semaine et dans quelques jours, on fera une annonce. L'idée, c'est la suivante, c'est que le droit en France est satisfaisant. Charlie Hebdo a remporté son procès dans l'affaire dite des caricatures, où d'ailleurs les magistrats, dans leur motivation, ont expliqué qu'en France, on avait le droit au blasphème. Le blasphème, ce n'est pas une notion en droit. Mais on s'en aperçoit à la lecture des témoignages dans les journaux. Il y a beaucoup de gens en France qui considèrent encore que le blasphème, c'est condamnable. Et certains le disent d'une manière un peu radicale. Et ceux qui portent une idéologie extrêmement extrémiste sur ces sujets-là, alors ne tiennent pas tous une Kalachnikov à la main et n'entrent pas dans une rédaction, mais cette idéologie peut inciter des fous furieux ensuite à le faire. Donc si on veut que Charlie Hebdo remporte une victoire posthume, là je parle des gens de Charlie Hebdo qui ont été tués, je crois qu'il faut se battre, et se battre j'allais dire politiquement, mais au sens très large du terme, pour convaincre tous les responsables religieux, et quand j'ai les responsables religieux, c'est les responsables des lieux de culte, c'est pas simplement les dirigeants de grandes fédérations, que la liberté d'expression n'a pas de religion, que chacun peut avoir son sacré, que chacun peut, il peut arriver à chacun d'être blessé par des dessins, par des articles, au regard de ses propres principes, mais que le sacré, ça ne s'impose pas aux autres. Et que si on veut être dans une société démocratique, plurielle, paisible, il faut que chacun comprenne que si des pensées devaient être interdites, si la critique de croyances, de systèmes de pensée devait être empêchée, alors ça serait la fin du débat public tel que nous le connaissons. Et quand on regarde, il y a des appels au fond à élargir cette notion de blasphème. Il y a des appels aussi au niveau international de la part d'un certain nombre de pays qui voudraient instaurer une notion de diffamation des religions et l'ajouter aux droits de l'homme. Donc c'est un combat fort qu'il faut mener parce que ces derniers jours, on a vécu une intense émotion avec la mobilisation, mais que maintenant, on est après et il faut faire des choses pour que ce qui s'est passé à Charlie Hebdo ne se reproduise plus et pour qu'il n'y ait pas, sans qu'on s'en aperçoive, une restriction de nos libertés.
Emmanuel Anison, vous soutenez cette initiative ?
En découvrant cette proposition, j'avoue être un peu sceptique, excuse-moi Christophe, mais sur les conséquences concrètes de cette charte qui est sûrement très, très joli théoriquement, mais qu'est-ce qui empêchera aucun imam n'a jamais empêché un frère Kouachi de prendre sa kalachnikov et partir du principe qu'une déclaration officielle des autorités aurait un effet sur le terrain auprès de, me semble un petit peu utopique. Hein.
Mais au moins, ça serait sans doute clarifié, Lucas Manger.
Ouais, je pense que de toute façon, il faut réfléchir à ce qu'on va faire après. Et effectivement, comme le disait Christophe Deloire à l'instant, maintenant, moi, je ne crois pas beaucoup aux chartes et aux déclarations comme ça. Je pense que l'heure est beaucoup plus grave que ça. Je crois que là, on est en train de s'endormir avec des jolis mots, mais qu'il faut aussi repenser notre métier. Non, je ne parle pas des tiens, Christophe, en particulier. Quand je dis de jolis mots, je parle depuis une semaine de ce qui se passe en France et qu'il ne faut pas qu'on s'endorme de jolis mots. Comme vous le disiez tout à l'heure, il faut peut-être un petit peu repenser la place de notre mission dans une société d'information, c'est-à-dire que les journalistes doivent rester à leur place, les policiers à leur place, les profs et les instituteurs à leur place, et qu'on a un boulot d'éducation et d'éducation à faire ensemble, dès le plus jeune âge, qui n'est pas un truc qui concerne que les journalistes. Et je pense, comme Emmanuel, qu'aucun imam, aucun pape, aucun rabbin ne lira jamais une quelconque déclaration de journaliste. Ils s'en foutent. Royalement.
J'ai une réunion lundi matin à laquelle participera la ministre de l'Éducation nationale, justement sur ces questions d'éducation nationale. Le principe, mais je n'ai pas tellement eu le temps de développer, et là, c'est de faire porter par la société civile. Et puis un combat, il faut se rendre compte qu'après les déplorations, par y compris les différents États, de ce qui s'était passé, du carnage à Charlie Hebdo, il y a des réactions au fond très violentes contre ne serait-ce que la dernière une, et que si on ne mène pas un combat politique large au niveau international et au niveau national, c'est dangereux. Après, les idées plus précises, je les exposerai plus tard.
Thibaut Henneton, alors cette soirée d'hommage, on l'a entendu Christophe Lévesque et Christophe Deloire réagir, cette soirée d'hommage aux victimes des attentats a eu lieu dimanche dernier, au soir des manifestations gigantesques dans toute la France, des manifestations « Je suis Charlie, je suis flic, je suis juif ». Alors Thibaut, il y a les « Je suis », mais il y a aussi les « Je ne suis pas ».
Oui, j'ai tâché de les repérer suivant cela. Nathalie Saint-Cric, responsable du service politique de France 2 dans le journal de 13h du 12 janvier dernier, qui répondait à Élise Lucet.
On parle beaucoup depuis quelques jours, Nathalie, d'unité nationale. Mais attention, toute la France n'était pas dans la rue hier.
Non, Élise, il ne faut pas faire preuve d'angélisme. C'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Ceux qui, dans certains établissements scolaires, ont refusé la minute de silence. Ceux qui balancent sur les réseaux sociaux. Et ceux qui ne voient pas en quoi ce combat est leur. Eh bien, ce sont eux que nous devons repérer, traiter, intégrer ou réintégrer dans la communauté nationale. Et là, l'école et les politiques ont une lourde responsabilité.
Alors, on a vu apparaître des « Je ne suis pas Charlie » dès vendredi dernier, après l'annonce des grandes marches unitaires sur le site d'Arrêt sur Image, notamment un texte qui a beaucoup circulé, intitulé « Je ne suis pas Charlie et croyez-moi, je suis aussi triste que vous ». D'autres suivirent « Je ne suis pas Charlie Hebdo, mais je suis Charlie Hebdo » et autres variantes « Être ou ne pas être Charlie » jusqu'à cette une du Monde datée d'hier. Cette France qui n'est pas Charlie et qui, une semaine après, a enfin le droit de citer. Le problème avec ce mot « Charlie », c'est qu'il renvoie une multitude de choses différentes, écrivait dès mardi Frédéric Lordon sur son blog. Chaque sens appelant un positionnement particulier. Reprenons. Si Charlie est la métonymie de la rédaction décimée de Charlie Hebdo, hommes et femmes assassinés, alors on pouvait bien être Charlie, c'est-à-dire contre les exécutions, contre la peine de mort, sans oublier les autres victimes. Si je suis Charlie voulait dire je suis Charlie Hebdo, le journal et sa ligne éditoriale, alors je ne suis pas Charlie parce qu'en désaccord avec cette ligne, notamment celle que lui insuffla Philippe Val au tournant des années 2000, ce même Val qui considère que Snowden, on parlait des lanceurs d'alerte, est un traître à la démocratie, je le rappelle. Ne pas être Charlie en critiquant sa ligne, ce n'est pas enterrer la liberté d'expression. Un pionnier de Charlie, Delphine Deton, regrettait lui-même l'évolution du canard il y a quelques jours, mais au contraire, réaffirmer que défendre la liberté d'expression, ce n'est pas défendre le droit à l'insulte, encore moins un devoir d'écouter ou de reproduire des propos jugés stupides ou insultants, comme pouvaient l'être pour certains les caricatures de Mahomet. Dire cela, ce n'est tout de même pas soutenir le terrorisme. Quant au « Je suis Charlie Koulibaly » de Dieudonné, les juges diront s'il relève de l'apologie du terrorisme. Mais là aussi, c'est plus ambigu qu'il n'y paraît. Voulait-il dire par là « Je défends la liberté d'expression et le terrorisme » ce qui est tout de même un peu contradictoire, convenons-en. Voulait-il dire « je suis satiriste et antisémite » ou bien encore « je suis un Français libre et néanmoins noir comme un Koulibaly ». Une chose est sûre, en lui tombant dessus, comme le fait notre Premier ministre depuis lundi, son premier fan manifestement, les « je ne suis pas que Charlie » et autres « je ne suis pas Charlie parce que » s'effacent, et avec eux la réflexion sur l'éventail des identifications possibles ou impossibles au sein de cette communauté nationale chère à Nathalie Saint-Cricq. Pour nous sommer, il est là, le fameux suicide français, de choisir son camp dans un grand choc des civilisations.
Thibaut Henton, le procès de Dieudonné aura lieu au tout début du mois de février. Le clin d'œil de la semaine, Nathalie Lopez.
C'est parti.
On voit également sur la Nationale 2 eh bien, des renforts qui arrivent. Il y avait beaucoup de monde un peu plus au nord.
Les rues de Paris ne sont plus sûres.
Les frères Kouachi qui sont donc les suspects numéro 1 de l'attentat contre Charlie Hebdo.
Vous savez que dans certains quartiers de la capitale...
Une autre prise d'otage en cours, porte de Vincennes, dans un supermarché cachère.
Les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir.
L'image de cet homme qui a croisé leur route, qui leur a même serré la main, si j'ai bien compris.
En réalité, je le répète, ceci est une émission de radio.
C'est assez sidérant et je ne sais pas comment l'interpréter sur la personnalité de ces deux hommes.
Qui pisait une émission de radio dite comique?
Non, pour l'instant, on est toujours dans l'expectative, savoir si c'était un assaut. Et dans ce cas-là, il aura été relativement bref.
C'est pas exactement ce qu'il se passe.
Putain, il y a Balladur. Qu'est-ce qu'il faisait, Balladur? Tiens, il y a... Ah ouais, Ségolène Royal, elle est beaucoup plus petite. Et je me disais, il y a tous mes personnages qui sont là. Tous les personnages de Charlie qui sont là. Derrière, il y avait les hommes politiques étrangers. Il y avait tous nos personnages politiques qui étaient là. Et on s'est dit qu'il y avait finalement tout Charlie qui était là. Même tout ce qui était dans Charlie qui était là.
Aussi bien laisserai-je maintenant la parole à mon ami Louis Rego, qui poussa naguère ici même le plus troublant des cris d'alarme. Louis Rego a dit ici, les chiffres sont accablants, il y a de plus en plus d'étrangers dans le monde.
Voilà le clin d'œil signé Nathalie Lopez. Merci à tous, l'émission se termine. Merci à nos invités, Emmanuel Anison, journaliste média Télérama, Lucas Manger, rédacteur en chef et chef du service reportage d'ITélé. Merci également à Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, nos deux regards extérieurs qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Mariette Darigrand, sémiologue incontournable du Secret des Sources, et Thibaut Henton pour le web et les images, incontournable lui aussi. Dans les coulisses de l'émission, les indispensables Mathias Mégy, Vincent Abouchard pour la préparation, la réalisation et le site franceculture.fr, et avec aujourd'hui, aux manettes, Clément Daté. Merci également à Nathalie Versieux, notre correspondante à Berlin. Dans un instant, le journal présenté par Mathieu Laurent, suivi de répliques, modernité et modération. Alain Finkielkraut reçoit Rémi Brague et Olivier Rey. Je vous signale deux rendez-vous importants de la chaîne lundi, c'est après-demain. Journée spéciale sur France Culture, les enfants perdus de la République après le choc Charlie. Que faire? Une journée spéciale qui débute avec les matins de Marc Voinchet en direct du Café Monde des Médias, Place de la République, et autre rendez-vous, la série exceptionnelle d'Emmanuel Laurentin, toute la semaine de lundi à vendredi. Comment en sommes-nous arrivés là, 1905-2015, histoire d'une république fragile, de rendez-vous majeur lundi 19 janvier toute la semaine. C'était le secret des sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal, réplique. Bonne journée sur Culture.
Le breaking news, l'info en continu, il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir des erreurs dramatiques, il peut y avoir des erreurs beaucoup moins graves, des erreurs dans les bandeaux, des erreurs dans ce qu'on dit. On essaye tous de faire extraordinairement attention à ce qu'on dit, parce qu'on sait bien qu'il y a des enjeux de direct et que les preneurs d'otages peuvent regarder ce genre de chaîne.
Je pense que les chaînes d'info continue ne font quand même moins d'erreurs aujourd'hui qu'elles en ont fait à un moment, et qu'on est tous dans un apprentissage.
Aujourd'hui, les journalistes, lorsqu'ils s'adressent à leur public, s'adressent aussi aux acteurs de l'actualité, et que ceux-ci ont accès, où qu'ils se trouvent, et même s'ils ont une Kalachnikov dans l'autre main, ont accès à l'information. Et donc il y a un risque que le journaliste finisse par transmettre des informations qui sont utiles pour ceux qui, j'allais dire, font l'actualité, et dans un sens parfois extrêmement tragique.